Sébastien Legeny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les violences scolaires divisent le gouvernement. Le plan annoncé à l'automne dernier a encore été différé. L'exécutif bloque notamment autour de la question de la suspension des allocations familiales pour les familles d'enfants violents. Carlos Ghosn sur le point de sortir de prison après 107 jours d'incarcération. Nous serons sur place. Des centaines de milliers de femmes qui ne voient pas leurs pensions alimentaires payées. Une réalité à laquelle le chef de l'État a promis de s'attaquer. Reportage à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, le détenu radicalisé de la prison de Condé-sur-Sarthe qui s'en est pris à deux gardiens a été interpellé hier dans la soirée. Bruno Le Maire présente ce matin sa taxe GAFA sur les géants du net. Et puis pas question de flancher ce soir pour le PSG qui reçoit le Manchester United pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50 est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Il publie « Ils veulent tuer l'Occident », c'est chez Odile Jacob.
France Inter.
Le plan sur les violences à l'école, Sébastien, n'en finit pas d'être reporté.
Il devait être présenté ce matin en Conseil des ministres, près de 5 mois après cette agression qui avait ému tout le corps enseignant. Un élève braquant sa professeure avec une arme fictive à Créteil. Eh bien, après déjà 3 reports, pour cause notamment de gilets jaunes, nouveau retard à l'allumage, repoussé donc ce texte à la dernière minute, car les ministres n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Il faut dire qu'ils sont 4 à plancher dessus. Éducation, santé, intérieur et justice, les explications de Sonia Princé.
Le plan prévoit 3 volets. La sécurisation des abords des établissements scolaires, la responsabilisation des parents d'enfants violents et la création de structures pour les élèves exclus à plusieurs reprises. C'est sur ces 2 derniers points que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas réussi à imposer les mesures qu'il envisageait. Pour les parents, par exemple, la suppression des allocations familiales ou une amende, mais la ministre des Solidarités et de la Santé n'y est pas favorable. La question des parents est sensible, on touche à la famille, explique-t-on au cabinet de Jean-Michel Blanquer. On ne peut pas considérer de la même façon une mère seule avec ses enfants, dépassée, qui aurait besoin d'une aide à la parentalité ou d'une aide sociale, et des parents qui contestent délibérément l'institution scolaire. Les structures pour les élèves polyexclus font débat aussi et dépendraient du ministère de la Justice. En réalité, sur tous ces sujets, des dispositifs existent déjà. Il suffirait d'analyser et d'améliorer ce qui est déjà en place. Mais le gouvernement s'en est rendu compte trop tard. Il a voulu réagir à chaud et annoncer un plan d'envergure, le voilà piégé maintenant par sa communication.
Pas de plan violence scolaire, mais un plan anti-GAFA, lui qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres, on le disait, le gouvernement qui s'attaque aussi au manque de concurrence dans plusieurs domaines clés de la vie quotidienne, les pièces détachées automobiles, les syndics de copropriété et les permis de conduire, avec l'instauration pour ces derniers d'un comparateur de prix, Édouard Philippe l'a dit hier, et puis toujours au chapitre vie quotidienne, cette possibilité bientôt pour les bureaux de tabac de vendre des tickets de train. L'idée est évoquée depuis des semaines. Aujourd'hui, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, rencontre le président de la Confédération des buralistes.
7h34, c'est l'autre violence faite aux femmes, les pensions alimentaires non payées.
C'est un sujet qui a permis de faire émerger le mouvement des gilets jaunes, des femmes seules, avec enfants, mais sans pension alimentaire. Ce matin, un rapport du think tank Terra Nova fait un constat accablant. Plus du tiers des 900 000 parents qui touchent une pension en France sont victimes de non-paiement, partiel ou total, des centaines de milliers de femmes concernées donc, qui se retrouvent à cause de cela sous le seuil de pauvreté. Résultat, près d'un quart des mères seules vivent avec moins de 1334 euros par mois, comme cette mère de famille qu'a rencontré Léna Thébault.
Oksana, mère de 3 enfants, fait face à un ex-conjoint qui a fui en Suisse, le père de son premier enfant. Après avoir épuisé tous les recours, elle se retrouve donc dans l'impasse. Son ex-conjoint lui doit plus de 5000 euros et ce n'est pas l'argent que lui verse la CAF qui va suffire.
J'ai 310 euros de pension, la CAF me versera que 100 euros. Donc j'ai un manque à gagner de 210 quand on est toute seule avec 2 enfants en congé parental. C'est très compliqué.
Et comme beaucoup de parents dans la même situation, elle souhaite être entendue.
On n'est pas écouté par la justice, parce que les plaintes sont très souvent classées sans suite. On n'est pas écouté par la CAF. On va vous donner un bout d'aide ailleurs et tout, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas que ce soit la CAF ou le contribuable qui paye pour l'enfant de monsieur. C'est que monsieur paye pour son enfant.
La question des pensions alimentaires revient régulièrement dans les doléances du grand débat, ce qui n'étonne pas Maître Réter, avocate généraliste.
Il y a beaucoup de débiteurs qui essayent d'échapper à leurs obligations. Aujourd'hui, il y a surtout des gens qui ont effectivement du mal à assumer le quotidien. Et quand en plus vous avez un parent qui n'exécute pas ses obligations alimentaires, alors qu'il est difficile de joindre les deux bouts, c'est tout de suite une catastrophe.
Des réponses sont attendues dans les conclusions du grand débat. Emmanuel Macron défend l'idée de renforcer les mécanismes de garantie du paiement des pensions alimentaires.
Léna Thébault, pourquoi et comment les pensions alimentaires sont devenues un sujet du grand débat national, c'est à retrouver également sur franceinter.fr. Lui voulait venger Chérif Chekat, le terroriste de Strasbourg tué en décembre dernier. Après avoir agressé au couteau deux gardiens de prison, le détenu de Condé-sur-Sarthe, Michael Kiolo, a donc été arrêté hier par le RAID après 10 heures de négociations infructueuses. Sa compagne est morte de ses blessures. L'inspection des services judiciaires a été saisie pour savoir comment un couteau en céramique a pu pénétrer en détention. Conclusion rendue d'ici un mois. D'ici là, plusieurs syndicats appellent à bloquer les établissements pénitentiaires. La prison de Condé-sur-Sarthe, elle, est déjà bloquée ce matin. Les chauffeurs de camions vont encore devoir prendre leur mal en patience. Aujourd'hui, les agents des douanes vont poursuivre leur grève du zèle à l'origine de très longues files d'attente à Calais et à Dunkerque. Ils réclament des moyens supplémentaires en vue du Brexit. C'est aujourd'hui que Carlos Ghosn devrait sortir de prison. Les avocats de l'ancien patron de Renault ont rassemblé ce matin les 8 millions d'euros de la caution. Tout est prêt maintenant pour filmer une sortie qui s'annonce très médiatique. Sur place à Tokyo, les précisions de Karen Nishimura.
Les médias japonais ne savent plus trop quoi inventer pour essayer de filmer les premières images de Carlos Ghosn sortant de prison. Certains ont même monté un échafaudage sur le toit d'une maison près du centre de détention pour y poser leur caméra. Une personne de l'ambassade de France est vraisemblablement arrivée à la prison, selon les médias japonais, et une partie de la famille de Carlos Ghosn est déjà à Tokyo aussi pour l'accueillir. Une procédure assez longue est requise pour que l'illustre dirigeant recouvre l'air libre. Son avocat a déposé au tribunal 1 milliard de yens en liquide, soit 8 millions d'euros de caution exigée, mais personne ne l'a encore vu arriver ni à son cabinet ni à la prison. En théorie, rien ne peut plus empêcher Carlos Ghosn de quitter la prison de Kosuge aujourd'hui. On s'attend à ce qu'il s'engouffre dans une voiture à la sortie, mais son avocat a déjà indiqué qu'il devait donner une conférence de presse. On sait que le patron déchu est très très impatient de présenter sa version des faits. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
En bref, encore l'étranger, la main tendue du nouveau président sénégalais à l'opposition, Macky Sall, est définitivement réélu avec 58% des voix. Résultat provisoire confirmé hier par le Conseil constitutionnel. C'est l'épilogue d'une présidentielle marquée par des tensions. Le chef de l'État s'est exprimé depuis le palais présidentiel hier. Il a appelé au dialogue avec ses adversaires. Non, le vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons, la rubéole n'augmente pas le risque d'autisme. Une étude est venue le confirmer pour une nouvelle fois hier, contrairement à des rumeurs insistantes. Une étude qui porte sur 650 000 enfants danois sur plus d'une décennie.
7h38, leurs carcasses se comptent par centaines, Sébastien, depuis le début de l'année.
Des carcasses de dauphins échouées sur les plages françaises. 700 dépouilles recensées depuis le début du mois de janvier sur la façade atlantique. Une hécatombe dénoncée par les ONG, notamment l'Organisation de défense des océans, Sea Shepherd, qui n'hésite pas à choquer les habitants pour sensibiliser au risque de la pêche au chalut. Reportage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, Marc Bertrand.
Ils sont une dizaine sur la plage, t-shirt noir, barré du drapeau pirate de l'association, occupés à soulever un dauphin échoué.
Il y a des marques d'hématomes et surtout, on voit que la queue, elle est coupée, elle est bien sectionnée. Et donc ça, c'est des marques de capture accidentelle. Et ils se coincent la queue dans les chaluts et pour les retirer de là, les pêcheurs coupent la queue.
Damien enferme le cadavre dans un sac mortuaire. Il est chargé à l'arrière d'un pick-up, direction le centre-ville.
Au lieu qu'il reste là sans que personne le voit, on va aller le mettre sur une place publique pour que tout le monde puisse voir ça.
Et le coup de com' est très bien rodé. Les Sea Shepherd déploient une banderole dans la rue commerçante. Le cadavre est déposé à même le sol et ça marche. Elsa s'arrête. Son fils regarde le dauphin.
Ça, il y en a plein tous les jours sur la plage. C'est bien ou c'est pas bien ?
Pas bien.
Non. C'est pas évident parce que voilà, on vit sur un port de pêche et c'est une grosse économie pour nous. Donc après, c'est compliqué.
Des pêcheurs assistent au spectacle. Les méthodes de l'association les agacent. La semaine dernière, elle a diffusé un film. On y voit un navire du port avec son nom, son matricule, remonter un dauphin dans ses filets.
Ils ont suivi un bateau pendant une semaine en mer. Il a pêché un dauphin dans toute la semaine. Vous mettez un drone sur une voiture pendant une semaine, elle va faire une infraction au bout d'un moment, c'est obligé.
Le pêcheur repart et il glisse. De toute façon, ils ne sont là que pour un mois. Bientôt, ils repartiront loin, traquer les chasseurs de baleines.
Le reportage de Marc Bertrand de France Bleu, La Rochelle. Les radios québécoises ont décidé de ne plus passer les chansons de Michael Jackson. Et cela au lendemain de la diffusion d'un nouveau documentaire qui vient encore renforcer les accusations de pédophilie contre lui. Documentaire qui sera d'ailleurs diffusé dans 15 jours en France sur M6.
7h40, on vous parlait de Richard Strauss hier. hier. Place à Verdi ce matin avec un nabucco très politique joué à Hambourg.
En Allemagne, en effet, l'opéra d'Hambourg recrute des réfugiés pour jouer Nabucco, l'opéra de Verdi. La première représentation aura lieu ce dimanche. Un spectacle mis en scène par ailleurs à distance par Kirill Serebrennikov depuis la Russie où il est assigné à résidence. Notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu, a pu assister à l'une des dernières répétitions.
Sur scène, les 40 réfugiés recrutés pour l'occasion installent des tentes, poussent des chariots de poissons ou assurent la sécurité de gens importants, des politiques réunis aux Nations Unies. Ils jouent là un peu de leur vie d'aujourd'hui, après un exil forcé d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan. Des photos de cet exode sont projetées sur scène. C'est un Nabucco moderne, proche de cet épisode de la Bible qui raconte l'esclavage des Juifs, pour le directeur de l'opéra, Georges Delnon.
La relation entre le peuple qui perd sa patrie ou à la recherche d'une nouvelle patrie avec le problème des réfugiés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était clair dès le départ que ça allait dans une direction politique.
Très politique aussi l'absence du metteur en scène. Kirill Serebrennikov ne peut plus quitter la Russie, un imprévu de taille auquel toute l'équipe a dû s'adapter.
Ça ne pouvait pas être vraiment une raison pour abandonner l'idée et d'une certaine manière aussi abandonner Kirill. Même s'il est arrêté à Moscou, on ne peut pas le faire taire.
Sorti de scène, le sourire aux lèvres, El Sayed Mohamed Ali, réfugié égyptien de 17 ans, arrivé en Allemagne en 2016. C'est très amusant, c'est vraiment grandiose. Et puis pour nous aussi, notre voix peut être entendue. Ce Nabucco de 2019 veut abolir les frontières, toutes celles que ces réfugiés ont traversées et celles derrière laquelle est maintenu, forcé, le metteur en scène russe.
Le reportage de Ludovic Piétenu, Nabucco de Verdi à Hambourg. Toutes les représentations sont complètes. 12 000 tickets vendus. Reprise du spectacle malgré tout à l'automne prochain.
Merci Sébastien Legénie. Deuxième point route, Victoria Coussa. Beaucoup de monde, Victoria, au nord de Bordeaux.
Effectivement, c'est très chargé sur l'autoroute A10 à partir de Saint-André-de-Cubzac. Il faut même 3 quarts d'heure de plus pour faire 14 km dans le sud-est maintenant. Dans le Var, vous êtes nombreux à rejoindre Toulon à partir de la Farlède sur l'A57. Il y a un bouchon de 6,5 km. Circulation difficile pour atteindre le nord de Paris sur l'A1 et bien plus au nord. La pluie continue de perturber le trafic sur la rocade est de Calais. 42 minutes de plus qu'en temps normal pour faire 4 km.